Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio Galilée et Radio VM au micro Renaud Grégoire. C'est notre seconde émission pour découvrir ces femmes qui vraiment sont à la base du renouveau pédagogique, on pourrait dire d'un renouveau au niveau des catéchismes et de la catéchèse. Et la semaine dernière, nous avons eu la chance de découvrir à travers ce filon historique une première femme qui se démarque, sœur Saint-Ladislas. Donc nous avons vraiment vu comment cette femme religieuse a passé du par cœur au cœur. Et nous sommes toujours avec notre spécialiste, Brigitte Collier. Bienvenue à cette seconde émission. Vous êtes professeure associée au département des sciences historiques de l'Université Laval. Vous êtes une spécialiste reconnue de l'histoire socio-religieuse du Québec, du régime français à nos jours. On l'a bien vu à la première émission. Et vous étudiez les cultures religieuses. Vous poursuivez depuis plusieurs années des recherches sur l'histoire de l'enseignement de la religion dans les écoles publiques québécoises, catholiques et protestantes. Et vos travaux couvrent la formation européenne des catéchètes québécois, leurs expériences, cheminements et carrières depuis la fin des années 1950. Brigitte Collier, vous travaillez sur les institutions religieuses et en histoire de l'éducation. Vous vous intéressez à la formation universitaire et la confessionnalité scolaire. Vous êtes membre du Centre interuniversitaire d'études québécoises, pour lequel vous avez dirigé un projet, un livre qui a été publié, l'Atlas historique du Québec portant sur l'école, éducation, identité, culture, et ça a été publié en 2023. Merci d'être avec nous pour cette seconde émission, parce qu'il y avait tant à dire. Et nous avons vu la semaine dernière sœur Saint-Ladislas, mais rappelez-nous brièvement, Brigitte Collier, son apport.
Alors ça, la méthode qu'elle a développée et pour laquelle elle a rédigé plusieurs ouvrages a percolé rapidement dans les écoles. Plusieurs communautés enseignantes d'importance l'ont utilisée. Pour vous donner une idée, chacun de ces 6 fascicules a été édité à plus de 35 000 exemplaires. On est, pour ce qui est des cahiers d'exercice, à 300 000 copies pour chaque cahier. C'est vraiment, ça a vraiment été important. On a aussi des chiffres très importants pour le catéchisme des tout-petits du royaume, de première et deuxième année. Donc, c'est une personne qui compte et qui a fait des conférences, qui a donné des cours, dans différentes universités. Sa correspondance révèle aussi la difficulté qu'elle peut avoir. Elle évoque ainsi un cours d'été qu'elle a donné à l'Université Laval aux prêtres et aux jeunes séminaristes, et elle s'est fait regarder de haut. Elle trouvait très difficile l'exercice, parce que finalement, bon, c'était une petite enseignante, et je dirais, elle n'avait pas toute la légitimité en théologie. Donc, ça a été quand même un parcours difficile. Néanmoins, elle a tellement été appréciée que, à partir de son travail, elle a été impliquée au comité catholique et lorsqu'on a voulu réformer les programmes de religion à la fin des années 40, on lui a demandé de participer à l'élaboration du nouveau programme qui sera mis en vigueur en 1948. Et on est à une époque charnière. L'obligation scolaire est là depuis 1943, donc beaucoup plus d'enfants scolarisés. Et donc, on lui demande de rédiger les directives pédagogiques. Et ceci à la fois de façon générale pour le programme, mais aussi pour chaque année de ce programme. Et je dois dire que je résiste pas à l'envie de la citer. Elle raconte dans sa correspondance son travail sur le sous-comité de religion. Et elle dit « Par la force des choses, me voilà membre adjoint de la commission de refonte de l'enseignement religieux. Ceci me demande de la composition des séances de discussion avec les messieurs et dames de la commission. Entre autres, le révérend père d'Alcantara, avec qui j'ai la hardiesse de ne pas toujours m'accorder, et M. l'abbé Tessier, que vous connaissez aussi, je crois. » Et il faut dire que le père d'Alcantara était son censeur aussi dans le projet. Néanmoins, peu de corrections sont apportées à son travail et elle reprend en fait au petit du royaume sa méthode, mais là qui va devenir obligatoire pour l'ensemble du Québec. C'est ça qu'il faut réaliser, là c'est important. Et je dirais que sans des études dans les archives, rien ne peut traduire, si l'on lit le programme, son influence. Elle n'est pas nommée, les membres du comité en général ne sont pas nommés. Donc, il faut faire ce travail d'exégèse pour savoir qui a écrit, qui a fait quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elle a eu un rôle essentiel.
Donc, Brigitte Collier, vous avez dû déchiffrer que c'était elle qui était derrière ça. Vous avez eu accès à des documents, à sa correspondance.
Oui, mais c'est surtout, je dirais, mon étudiante Janine Gauthier qui a fait ce travail pionnier dans le cadre d'un doctorat en théologie, qui a pu donc remonter à toutes ces documentations et qui nous a permis donc de voir qu'en fait, elle avait été, elle était passée de sa méthode au programme officiel pour l'ensemble du Québec. Et on y retrouve donc l'orientation christocentrique de la méthode. Et elle demande dans cet ouvrage-là, qui est épais, dans ce programme, l'engagement du maître, celui de l'élève. Et elle dit la chose suivante, pour atteindre ses objectifs, le maître doit instruire, convaincre et faire agir.
Instruire, convaincre et faire agir.
Et ce n'est plus l'argument, je dirais, d'autorité, mais il faut faire valoir le caractère irrésistible du modèle, le Christ, qui va l'emporter, qui va convertir l'enfant. Donc c'est toute une démarche qui doit être vécue et mise en place par l'enseignement. Il faut vraiment aller toucher l'enfant. Et ça, donc, ça devient le programme officiel des écoles publiques québécoises.
Comme le Christ a touché les gens durant sa vie terrestre et le ressuscité aussi, le Christ est présenté comme quelqu'un à connaître, à découvrir et à aimer, et non pas quelqu'un à craindre.
Exactement. On est, effectivement, il faut faire certaines choses, hein, il y a des obligations, mais c'est autour, justement, de cette relation d'amour que doit se jouer la démarche. Et pour vous donner une idée, dans le programme, le professeur d'enseignement religieux présentera la vie non pas tant comme un grand sacrifice que comme une belle et joyeuse aventure, celle où l'on se rend capable de se donner aux autres, pour l'amour du bon Dieu, la vertu de l'effort, moins comme un sacrifice pénible et douloureux que comme une belle occasion de faire plaisir au bon Dieu et à son prochain en le rendant heureux.
C'est ce qu'elle écrit.
C'est ce qui est écrit dans le programme. C'est dans le programme.
Donc ça vient d'elle, en tout cas. On
comprend que ça vient d'elle, oui. Mais c'est officiel dans le programme.
Or, 1949, elle décède, sœur Saint-Ladislas. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, elle était très malade depuis longtemps. Elle avait le projet de commencer une réforme de l'enseignement du français.
Elle était vraiment dans les réformes.
Elle était dans les réformes. Et c'était donc son ultime préoccupation. Ça n'a pas signifié, je dirais, l'abandon de son programme. Au contraire, dans la mesure où le programme scolaire était très lié à ce qu'elle avait fait. Ces manuels ont survécu jusqu'aux années 60 parce que le nouveau catéchisme de 1951, finalement, ne nécessitait, que quelques adaptations des manuels avec des changements de numérotation dans les questions, mais ça n'invalidait pas sa méthode. Donc, elle a ses livres, son projet a perduré jusque dans les années 60.
Et il y a d'autres femmes aussi qui ont joué un rôle important. On va aller... Faites-nous découvrir sœur Marie de Saint-Fortunat, son apport. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Alors, c'est une sœur de Notre-Dame du Saint-Rosaire de Rimouski qui était très au fait des travaux de sœur Saint-Ladislas. C'est quelqu'un qui était en autorité dans sa communauté parce qu'elle a été la maîtresse générale des classes de 1925 à 1955.
Quel était ce rôle-là d'être...
Ce rôle-là, c'est de vérifier, d'inspecter les classes, de former, de donner des indications de formation aux enseignantes, d'organiser les cours d'été pour renouveler leur formation. Et on la connaît parce qu'elle envoyait des circulaires régulièrement sur les différentes matières, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, les résultats d'examen, ce qu'elle aimait moins. Et donc, elle avait la possibilité, bien sûr, avec l'autorisation de la mère supérieure, elle avait la possibilité d'orienter les religieuses dans le choix des manuels, dans le choix des ouvrages de pédagogie. Et donc, et je ne peux pas encore dire si elle a rencontré en personne sœur Saint-Ladislas, mais elles ont échangé. Elles ont une correspondance assidue. Lorsque Saint-Ladislas a sorti, dès la fin des années 30, ses volumes, ses premiers volumes, sœur Marie de Saint-Fortuna les a imposés.
Dans sa congrégation. Des sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire.
Voilà.
Parce que c'est un peu comme ça que ça se passait. Alors, il y avait comme une responsable dans chaque communauté, un peu de voir, pour les communautés enseignantes, toujours une responsable de voir à la pédagogie, à former les nouvelles sœurs, à vérifier ce qui se passait dans les petites écoles, parce que souvent, elles étaient envoyées deux par deux dans les régions où il y avait très, très, très peu de contact avec les grands centres.
Effectivement, et quand on prend les sœurs du Saint-Rosaire, elles sont en Gaspésie, elles sont sur la côte nord, et sœur Saint-Ladislas, malgré une santé qui n'était pas toujours très forte, faisait donc des itinéraires de visites, d'inspection, on peut le dire, dans les différentes écoles de la communauté. Alors, sœur Marie de Saint-Fortuna a donc fait entrer tous les ouvrages, a fait venir tous les ouvrages de sœur Saint-Ladislas. Elle a même, je dirais, fait des campagnes de publicité pour que les parents achètent les catéchismes pour les plus jeunes, aux tout petits du royaume. Elle avait pas mal d'argumentaires pour faire valoir son point. Et elle, son idée, c'est, elle estime que la foi est en train de baisser. Et elle veut faire, comme elle disait, faire refleurir la foi chez notre petit peuple. Et donc, pour elle, l'enseignement de la religion est tout à fait important. Et là encore, dans la même ligne que sœur Saint-Ladislas, elle dit bien, faisons donc bien comprendre que le chrétien parfait n'est pas celui qui fait de longues prières vocales ou d'abondantes aumônes, mais celui qui s'applique à nourrir et à développer en lui la foi, l'espérance, l'amour de Dieu et du prochain.
Il y a le mot « développer ».
Oui, et il faut que ces enfants-là, comme le disait sœur Saint-Ladislas, deviennent des témoins, des militants. Et elle a été très intéressée par le développement de la JEC,
jeunesse
étudiante catholique, quand ça a commencé. Donc, elle a été jusqu'à, en 1941, organisée... une année, à la suite d'une année complète de réflexion sur la religion, sur le catéchisme, elle organisait une immense exposition à Rimouski de tous les travaux des élèves pour les différents niveaux en catéchisme.
C'était
complètement nouveau. Et des frères sont passés par là, ont vu ça. Et en novembre 1941, les frères des écoles chrétiennes lui ont demandé de transposer l'exposition à Montréal, où il y avait une semaine de l'enseignement religieux qui se développait. On est là au cœur là, de toutes les réformes qui se sont faites en matière d'enseignement religieux. Et donc, elle a même dû refaire faire des travaux. Je ne sais pas si ses sœurs ont toujours été heureuses de ça, pour pouvoir présenter tout ça à Montréal. Donc, elle prépare, avec d'autres membres de communauté, je dirais, tout le passage vers la catéchèse dans les années 60.
À question d'aujourd'hui, toujours en compagnie de Madame Brigitte Collier. Vous nous avez parlé de Sœur Saint-Ladislas et de son impact important pour passer du par cœur au cœur, de Sœur Marie de Saint-Fortuna qui a même organisé une exposition à Rimouski avec justement les fruits de cette école active où on demande à l'enfant, aux enfants, les dessins, de représenter peut-être des pages d'évangile, de présenter des prières peut-être ou d'autres choses. Et on arrive dans les années 60 et il y a une troisième femme qui apparaît, Sœur Marie de la Visitation, qui est connue aussi sous le nom de Françoise Darcy.
Oui, parce que tout ce mouvement de réforme va culminer, je dirais, dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Et on a une institution qui est fondée ici en 1952, qui est l'Office catéchistique provincial, donc sous la responsabilité de Gérard-Marie Coderre, qui deviendra l'évêque de Saint-Jean. Et il faut, il y a comme un sentiment d'urgence qui se développe pour mettre en place des réformes, pour mieux former aussi les enseignants. Et tout ça parce qu'on sent aussi qu'en Europe, ça bouillonne de plus en plus. Les initiatives sont de plus en plus nombreuses. Et il faut voir, je dirais, l'expérience du Québec aussi dans un plan, je dirais, transnational. C'est-à-dire que l'influence européenne, tout ce monde-là, Sœur Saint-Ladislas était en contact avec des religieuses belges. Tout ce monde-là se parle, échange et tient à changer de paradigme dans l'enseignement de la religion. On a des grands organismes européens qui se mettent en place, comme le Centre Lumen Vitae à Bruxelles, l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à Paris, et Monseigneur Coderre, dans sa volonté de réforme, va faire former systématiquement des jeunes prêtres, des enseignantes aussi, des religieuses, en Europe. Et tout ça dans le but aussi de créer un nouvel ouvrage qui ne serait plus par question-réponse et qui intégrerait donc tous les changements pédagogiques en rompant ce moule qui favorise évidemment l'apprentissage par cœur. Et il va nommer une équipe qui a été formée en Europe, Jean-Paul Bérubé, Marcel Caron et Réginald Marcellet. Donc, qui reviennent frais et moulus, ce sont des directeurs diocésains de catéchèse, qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'enseignement catéchistique avant ça, mais ils sont armés théoriquement. Et pour avoir interviewé Françoise Darcy et Jean-Paul Bérubé, ce dernier me disait, on s'est bien vite rendu compte qu'il nous fallait une femme dans l'équipe. Et parce qu'ils n'avaient pas les compétences. Bon, c'est des jeunes.
Des compétences pratiques.
Des compétences pratiques. Et ils n'avaient surtout pas enseigné au primaire. Or, cet enseignement-là, il est destiné au primaire. Donc, il y a quand même. C'est des personnes de collège classique. Ils n'ont pas cette formation-là. Et ils vont repérer, dans un numéro de la revue Lumen Vitae, un texte qui est signé par Sœur Marie de la Visitation. Et qui fait des suggestions pour un programme de religion dans les écoles publiques belges. Et ils trouvent que ça correspond, les écoles sont confessionnelles, et ils vont faire appel à elle. Alors, ils découvrent une femme qui est une sœur auxiliatrice du purgatoire, qui est une communauté assez particulière, qui est rattachée, je dirais, à la spiritualité jésuite, des femmes qui sont plutôt intellectuelles, mais qui travaillent aussi dans le domaine social de façon importante. Elles sont venues au Québec en 1949. Elle-même va vivre aussi au Québec. C'est une femme qui a un parcours tout à fait extraordinaire. Elle est issue de la noblesse française. Elle a une éducation absolument raffinée. Elle est parfaitement bilingue français-anglais. Et on va voir que ça compte énormément. Mais c'est quelqu'un qui s'est impliqué, qui a voulu devenir religieuse et qui faisait toute jeune le catéchisme dans les banlieues difficiles, ouvrières, de Paris. Et donc, elle a une excellente formation et elle est très intéressée par l'approche montessorienne, donc de Maria Montessori.
C'est-à-dire
la grande pédagogue qui a créé une méthode, la méthode Montessori, et qui s'est intéressée aussi à l'enseignement de la religion. Et donc, elle a vécu aussi en Belgique, elle est allée étudier à Lumenvité, et donc elle va travailler, elle va accepter de travailler avec cette équipe. Et donc, c'est elle qui va initier le groupe aux méthodes actives, qui va privilégier, c'est elle qui va surveiller aussi les tests dans les écoles qui vont être faits avec les nouveaux volumes. Il s'occupe des volumes de la première à la troisième année. C'est quelqu'un qui a une formation théologique importante, qui s'intéresse au mouvement biblique et liturgique. Elle a donc une, je dirais, elle partage avec ses prêtres qui travaillent avec elle, je dirais, une culture théologique tout à fait importante. Ils sont sur la même longueur d'onde.
Mais là, c'est une expérience pédagogique.
Mais elle a une expérience pédagogique.
C'est ça qui va faire la différence.
Et mais c'est important pour le respect qu'ils vont lui donner, c'est-à-dire qu'elle a, ils n'ont pas grand-chose à redire sur sa culture.
1964, vient vers le Père.
Oui.
Je dois mettre une petite note personnelle, si vous permettez, Madame Collier. Moi, j'ai eu ces volumes de cette collection. Et j'en garde un souvenir impérissable et mémorable. 1964, qu'est-ce qui arrive?
Eh bien, paraissent et sont imposés les volumes, les premiers volumes, les trois, pour les trois premières années, de Viens vers le Père. Alors, c'est une rupture complète, puisque chaque année d'études a son volume. Hein, ce sont des livres autonomes d'une année sur l'autre, avec un manuel pour le professeur. Et ce qui est particulier, on cherche à impliquer les parents dans la démarche. Ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, il y a toujours un fascicule qui est réservé aux parents, et dans le volume lui-même, il y a des indications pour les parents. Donc, on veut établir un lien entre la famille et l'école. Ce n'est pas uniquement donc réservé à l'école. Et de ce point de vue-là, Sœur Marie de la Visitation teste tous les volumes, et c'est sûr que ces volumes-là sont tellement différents que ça va créer un remous, à la fois dans l'Église, dans la société québécoise. On abandonne, pour certains, le catéchisme. Disons qu'on abandonne un catéchisme d'autorité pour autre chose. Et dans la mesure où la méthode prévoit que les enfants se déplacent, que les enfants bougent dans la classe, elle me racontera qu'il y avait des institutrices qui trouvaient ça assez difficile, estimait que ça pouvait faire désordre dans les classes. Mais généralement, ce sont des ouvrages qui sont bien appréciés, même si à l'époque où ils sont développés, se pose la question, je dirais, du profil des instituteurs et des institutrices. Et c'est quand même une méthode et des ouvrages qui demandent une adhésion. Alors, je pense que de ce point de vue-là, plus on avancera dans le temps, plus il sera difficile d'associer les deux aspects.
Brigitte Collier, il nous reste quelques instants. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette aventure, particulièrement avec Sœur Saint-Ladislas, Sœur Marie de Saint-Fortuna et Sœur Marie de la Visitation des années 30 à 80, puisque la collection Viens vers le Père va être transformée. Il y a aussi que l'école ne sera plus responsable de l'enseignement comme tel confessionnel. Qu'est-ce que vous retenez?
Je suis, assez fascinée par la place, malgré tout, que ces femmes ont réussi à se tailler dans ce secteur qui était quand même assez difficile. Et je crois que le fait que l'école soit très présente a joué en un sens en leur faveur. Parce que les matières scolaires évoluaient, la pédagogie évoluait. Donc, ça a forcé un changement de paradigme dans l'enseignement. Ce qui est intéressant aussi, et si je pense à Sœur Marie de la Visitation, à Françoise Darcy, c'est que par tout son réseau, elle a réussi, elle a largement contribué à faire que le catéchisme vient vers le Père devienne le catéchisme des anglophones à l'échelle canadienne et à l'échelle des États-Unis.
Ce qu'on ne savait pas.
Eh oui, parce qu'elle a passé des années à faire des formations aux États-Unis. Elle enseignait du reste à l'université Fordham à New York et elle a donc fait des formations qui lui ont permis donc de familiariser les enseignants, les enseignantes, les parents aussi à cette approche de la catéchèse. Donc ce sont des femmes qui ont été très importantes à mon avis, et qui avait une grande sensibilité aussi aux changements culturels, aux changements sociaux qui avaient cours dans la société. Il y a une écoute qui est importante des changements et une volonté de rapprochement. Sœur Saint-Ladislas disait, par exemple, il faudrait peut-être parler de l'eau d'érable, ne pas imposer, plutôt que le CNV, de ne pas imposer à des élèves dont les parents n'ont pas l'électricité dans les maisons, des comparaisons avec l'électricité. Elle essayait toujours de faire en sorte que ça s'ancre dans une culture canadienne-française.
Brigitte Collier, un immense merci. On aurait pu faire encore une autre émission de nous avoir fait découvrir ces femmes. Sœur Saint-Ladislas, Sœur Marie de Saint-Fortunat et Sœur Marie de la Visitation, Françoise Darcy, leur contribution. Et merci de votre précieuse contribution. Et vraiment, merci de votre passage. Très court, on a fait deux émissions, on aurait fait encore d'autres, mais merci de votre passage à la question d'aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre présence. Je m'appelle Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.